Intervention aussi tout à l'heure à Nîmes pour déloger une trentaine de personnes qui occupaient depuis ce matin une antenne du conseil départemental. Elles avaient investi les locaux des services allocation pour dénoncer le non-versement du RSA à des ressortissants européens vivant en France depuis des années. L'aide est pourtant assurée dans d'autres départements.
Alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est le JT de France 3 Pays Gardois du 12 février 2018. Donc, bonjour et bienvenue. Donc là, on est sur l'émission La Route des Ondes, aujourd'hui avec le collectif Exploité Énervé d'Alès. Alors aujourd'hui, on a à l'antenne, il y a donc Laurent, Ravière et moi, c'est Greg. Donc aujourd'hui, donc c'est une deuxième émission du collectif Exploité Énervé. En fin décembre, on avait déjà fait une émission ici à Radio Grille Ouverte pour parler de la situation des ressortissants européens et des batailles qu'on mène par rapport à ça dans le département. Alors le collectif Exploité Énervé, juste pour rappeler, donc c'est un collectif de travailleurs, chômeurs, précaires, donc sur Alès et les environs, où l'idée c'est de se défendre collectivement face aux galères quotidiennes au niveau administratif, face à la CAF, à Pôle emploi, à des employeurs, des bailleurs. Et d'une manière générale, c'est un collectif qui s'auto-organise, c'est le but de s'auto-organiser dans une perspective de solidarité et d'autodéfense de classe. Voilà, dans les grandes lignes pour le collectif. Voilà, c'est un collectif qui tient des permanences donc sur Alès deux fois par mois, sur Saint-Ambroise, depuis assez récemment aussi sur Saint-Ambroise et sur Bessèges. Donc à la fin, on rappellera les horaires des permanences. Et il y a aussi une réunion mensuelle qui est pareil. Donc on rappellera tout ça à la fin de l'émission. Le sujet de l'émission aujourd'hui, c'est de reparler un petit peu de cette bataille autour des ressortissants européens. Laurent nous expliquera mieux toute la complexité de la situation des ressortissants européens. Donc pour toucher le RSA dans le Gard, donc le conseil départemental qui est payeur décideur pour faire le versement des RSA a décidé de fermer les robinets à ce niveau-là depuis 2 ans. Donc voilà, donc on va reparler un petit peu de tout ça, des batailles qu'on a menées donc depuis le mois de décembre. Et l'idée générale un petit peu de cette émission aujourd'hui, c'est aussi donc de rappeler que on sait que dans le département, il y a énormément de personnes qui sont dans ces situations-là, qui se retrouvent sans ressources ou avec des ressources amputées de manière assez importante, et qui a réellement un enjeu à ce que ces personnes essaient de réclamer leur dû auprès du département, ou essayer d'engager un peu un rapport de force avec le département, pour et dans l'idée de qu'au plus on est nombreux à revendiquer quelque chose, au plus il y aura de chances d'obtenir gain de cause. On invite toutes ces personnes qui sont dans ces situations-là donc à faire les démarches auprès du département et voir à contacter le collectif Exploité Énervé pour essayer de s'organiser ensemble. Et en plus de ça, l'autre objectif de l'émission, c'est qu'avec le collectif, on appelle à un rassemblement donc devant le conseil départemental à Nîmes, qui aura lieu donc le jeudi 7 juin à 8h30 devant l'hôtel de département à Nîmes, au 7 rue Guillemette, à l'occasion d'une séance du conseil départemental, des conseillers départementaux, pour essayer à nouveau leur faire entendre ce qu'on réclame, c'est-à-dire aussi d'une manière générale qu'ils revoient le règlement du conseil départemental pour ce qui est de l'attribution du RSA pour les ressortissants européens. Et donc là, on va écouter donc Laurent qui va peut-être, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette histoire de tout ce micmac sur le RSA pour les ressortissants européens.
Alors je vais revenir très rapidement sur la situation par rapport au RSA des ressortissants européens. En fait, c'est le prolongement d'une émission qu'on avait fait en décembre 2017, donc je ne vais pas tout reprendre, mais je vais essayer de résumer cette situation. Donc avec l'Union européenne, il y a une liberté de circulation pour l'ensemble des ressortissants européens, et il n'y a pas d'obligation de titre de séjour. On peut avoir droit à un certain nombre d'aides sociales, contrairement aux ressortissants qui ne sont pas de l'Union européenne. Seulement, c'est pour avoir droit à ces aides sociales, il y a un certain nombre de conditions. C'est la question du droit au séjour. En gros, il ne faut pas être une charge pour l'État, et il y a un certain nombre de conditions qui sont fixées au niveau européen, ensuite au niveau du CESEDA, donc le code pour le séjour des étrangers au niveau national, et puis ensuite chaque département applique un règlement particulier.
J'avais en fait envie juste de dire qu'en fait souvent ça prête à confusion parce qu'on utilise les mêmes mots, on parle toujours de droit au séjour. Mais il faut dire que pour les étrangers extra-communautaires, les droits au séjour, c'est y compris les droits à la libre circulation, les droits à travailler. Ça, pour les Européens, c'est pas le cas. En fait, les droits à la libre circulation, les droits à séjourner dans les territoires et à travailler, il est là. Et les droits au séjour, et ce qui ouvre, c'est les droits à l'égalité des traitements vis-à-vis de la loi par rapport aux ressortissants français, quoi. Et effectivement, c'est un droit au séjour qu'on n'a pas automatiquement. Je veux dire, pour l'avoir, il faut soit avoir des ressources suffisantes, soit être travailleur. C'est pas on arrive et on touche direct tout, comme des fois on entend, non?
Ça, c'est sûr. Du fait de cette non-obligation de titre de séjour pour les ressortissants européens, la préfecture a tendance à refuser les rendez-vous pour demander ce titre de séjour. Et le résultat, c'est que ce sont les administrations, la Sécu, la CAF, le conseil départemental qui décident eux-mêmes du droit au séjour ou non des ressortissants européens. Donc lorsqu'on fait une demande de RSA, ça va être la CAF et puis plus directement le conseil départemental qui prend la décision. En gros, un des critères les plus importants qui sont mis en place au niveau du règlement du RSA dans le Gard, c'est le critère des revenus. Ce qui a été décidé par le conseil départemental, c'est qu'il faut avoir au moins des revenus égaux au montant du RSA pour toucher le RSA, ce qui paraît quelque peu absurde. Donc c'est une décision arbitraire finalement du conseil départemental. Et d'ailleurs, ce règlement, il se trouve en opposition avec les circulaires et les directives européennes et le CESEDA, le Code pour le séjour des étrangers. Ainsi, les ressortissants européens ont beaucoup de mal à toucher leur RSA dans le Gard, ce qui provoque des situations souvent très très difficiles. Des personnes européennes peuvent vivre depuis 10 ans, 15 ans en France, avoir travaillé, avoir été au chômage et puis se retrouver sans aucun revenu à l'heure actuelle. Donc on va peut-être faire une petite pause musicale avec un morceau de La Craps qui s'appelle Bleu de travail.
Sonata, production.
La France d'en bas charbonne, attend le Ken, oui. Bosse à l'usine toute la semaine sur un Fenwick. Tête dans les chiffres, contrat à plein ou à mi-temps. Jour et nuit, les gens se butent au taf comme des mutants. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Que veux-tu, les vieux de plus en plus bornés, les jeunes de plus en plus têtus. Comment tu veux qu'on les calme, et ne serait-ce qu'on discute. Dans l'hémicycle, y'a que des types mystiques qui se disputent. Comme tous ces gros patrons véreux qu'on a envie de traiter. Pas assez d'expérience pour le poste, recruter des retraités. Marre du taulier, on a tous envie de quitter le taf. Pas besoin d'avoir les chaînes aux pieds pour être un petit esclave. Les petits budgets font du sur place pour les grandes vacances. Dans la manche, c'est le CAC 40 qui mène la danse. Tourne le dos à tes collègues et tu verras qui t'aime. Métro, boulot, dodo, tous les jours c'est idem, idem. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, mais ils sont riches de veine. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le bleu de travail. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, ils sont riches de peine. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le bleu de travail. Toi, le on s'en bat de l'échec, ouais, les gens qui en partent des chaînes. Non, on veut pas être des légendes, juste plus l'être en bas de l'échelle. Puis tout déchire, la vie met le seum. Comme voir un ami en terre, dur d'assumer comme une mère seule qui élève une famille entière. On est français, mais des tas de gens apparemment n'ont pas compris. Soyons fiers de nos talents, ce que nos parents ont accompli. C'est simple, t'as le droit d'avoir le tamas, mais pas de café. Pourtant la plupart se lèvent à 5 du tamas et partent à fait. J'ai pris une tasse, même en trichant, j'ai toujours été endetté. Mais y'a que les riches et ceux qui brassent, qui passent l'été entêtés, envie de tout plaquer. Mais ton salaire, mon gars, tu es l'otage, système claqué, tout est bancal, on est bon car tu es otage. Je suis pas le fils d'enterre, te demande pas qui est coté. Combien de trimes des vies entières, sans mettre un billet de côté, tout nous oppose. Personne se rappelle ce que c'est d'été. On veut être des patrons, on nous propose à peine le CDD. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, ils sont riches de paye. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le bleu de travail. Chacun son gain de pain, chacun sa fiche de paye. Les travailleurs sont pauvres, ils sont riches de paye. Tu peux pas refuser la pilule que l'État veut que t'avales. Quand on voit le contre-coup de l'emploi, on comprend le bleu de travail. Alors on va commencer avec le projet de réforme du droit du travail présenté par El Khomri. Projet de réforme de droit du travail qui est plus libéral que la vie sexuelle de Nesca. C'est probablement affligeant. Je vous la fais courte. Les critères de licenciement économique ont été élargis comme le fion des Français. C'est pas peu dire. Autant dire qu'on a vidé le concept complètement sa substance. On pourra vous faire travailler 60 heures par semaine. Oh la chance. Oh putain. Le retour de l'esclavage impeccable. Notre modèle social à terre. Et en fait ça tient en quelques mots. Bande de bâtards. Arrêtez de tirer sur le tissu de la pauvreté de la sorte, il va finir par craquer. Voyez pas qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui vont dormir dans la rue le soir, et que c'est pas par amour du grand air.
Donc après ce petit rappel des règles pour l'attribution du RSA aux ressortissants européens et puis les situations très délicates dans lesquelles ça place les ressortissants européens, Ravière va nous faire un petit rappel des différentes actions faites avec le collectif, avec plusieurs collectifs d'ailleurs, et avec des travailleurs, des précaires, des chômeurs et des ressortissants européens évidemment.
Oui, du coup, comme il vient d'expliquer Laurent, le cadre légal, il est assez complexe et en plus, il n'est pas trop accessible. Je veux dire, c'est un peu difficile d'avoir les infos. Il faut piocher à droite, à gauche et tout ça. Et nous, à force des galères, c'est vrai qu'on commence à avoir un petit peu l'expérience de comment ça marche. Du coup, je profite pour inviter les gens qui se trouvent dans les mêmes difficultés de ne pas hésiter à venir voir les collectifs parce que je pense qu'on peut au moins les orienter un petit peu. C'est nos droits quand même. Du coup, je pense que pendant qu'on a la loi de notre côté, il faut essayer de faire valoir la loi, même si la loi a clairement ses limites. Moi j'ai un peu l'impression d'avoir fait l'erreur de faire trop confiance au système légal et tout. Du coup, je pense qu'il faut mener des actions à côté de ça. Et justement, on a continué à essayer de mener des actions. Entre autres, on était interpellé les conseillers départementaux. Certains, on était les visiter directement pour expliquer les cas et aussi demander des explications de comment ça se fait que ça marche différent dans les départements du Gard que par rapport au reste du territoire national. D'autres conseillers ont été interpellés par mail. Tu voulais dire?
Ouais, je voulais juste te dire, l'idée des conseillers départementaux, c'était partant du principe, en fait, c'est eux qui sont décideurs, en fait, au niveau du département, c'est les politiques. En fait, le département, c'est entre, d'un côté, il y a les élus, les conseillers départementaux qui vont prendre des décisions politiques. Et de l'autre côté, on va avoir les administratifs qui vont appliquer ces décisions-là. Et donc, en allant voir les conseillers départementaux, c'était justement pour essayer de les interpeller par rapport au fait que c'était eux directement qui avaient pris les décisions, qui avaient voté la mise en place du règlement, de ce règlement par rapport au RSA.
Oui, c'est un peu sportif, non? C'est un peu comme les tennis ou les ping-pong, parce qu'en plus, il y a cette histoire de se jeter la balle, non? Entre administratifs et élus. Et du coup, on a essayé de justement interpeller les deux niveaux. Du coup, on était allé visiter d'un côté les conseillères et d'autre côté, on a été aussi visiter les administratifs. Du coup, comme on a par exemple allé occuper à Nîmes les bâtiments où il y a les services d'intervention sociale les mois de février. Et c'était assez sympa comme ambiance. On était bien assez nombreux. Et on était reçus par les responsables. On a eu des explications, certaines un peu pertinentes, d'autres un peu bidons. Mais en tout cas, ça avance toujours un petit peu. Après, comme on est toujours dans cette démarche sportive de jeter la balle, eux, ils ont fini pour jeter la balle à Monsieur Boit, du coup, le président du département. Et du coup, on a dit, il semblerait qu'il n'y a pas d'autre solution qu'avoir un rendez-vous avec ces messieurs-là. Du coup, on a dit, on demande un rendez-vous. Et la réponse, c'était d'envoyer la police pour nous déloger. Mais il avait quand même des engagements à faire des réponses sur le cadre légal général qui pose des problèmes, les règlements de l'allocation RSA dans les départements. Aussi, sur mon dossier à titre personnel, il n'y a pas eu de réponse vraiment. Les soi-disant réponses, c'est une vaste blague. En gros, c'est une photocopie de ce qui s'était déjà envoyé 2 mois avant. Du coup, on a fait une nouvelle action. Cette fois-là à l'Est, et là c'était bien, on était accompagné par 2 autres collectifs, il y avait le collectif des chômeurs de la Royale et Seven Sans Frontières. Pareil, l'ambiance était assez sympa, on a passé un bon moment dans ces jolis bâtiments. On n'a pas eu plus d'explications que ça, mais au moins...
Et l'issue a été la même. En fait, il n'y a pas eu plus d'explications et d'avancées au niveau des demandes, c'est-à-dire le rétablissement du RSA pour les personnes qu'on accompagne avec le collectif et d'une manière générale tous les ressortissants européens, mais aussi ce truc général qu'on demandait, c'était de revoir le règlement du département pour ce qui est de l'attribution du RSA dans le Gard. Et par rapport à ça, donc il n'y a eu aucune avancée. Et la réponse. À nouveau, la réponse à la demande de rendez-vous avec M. Boit, qui est le président du conseil départemental, ça a été de demander une évacuation à la préfecture. Et donc, on a été évacué.
Oui, mais j'ai envie de dire que quand même, c'est comme on est toujours dans cette démarche des jeux, de faire voir, des jeux de pouvoir, des patience, et de machin. Il ne faut pas obliger. Au fond, c'est ça, c'est un jeu. Du coup, c'est vrai que dans cette surface immédiate, on a l'impression que... que voilà, que les résultats c'était les mêmes. Mais après, c'est clair, on a eu des échos qui, effectivement, c'est efficace. On a fait parler bien du sujet, ça a bien remonté. Du coup, voilà, on a continué encore des actions. On était, comme voilà, on avait été interpellés, les cellules, certains par un mail, certains personnellement, et qu'on a eu par réponse les silences. Du coup, on est allé voir directement. Il y avait une assemblée qui se déroulait, si je me rappelle
c'était
pas
le
mal, 30, c'était le 5
mars.
Avril.
Oui, le 5 avril, pardon.
Devant la préfecture, toujours. Hein. Et voilà, là, on a profité pour encore communiquer. On a eu l'occasion de donner des tracts en main propre au président et aux autres conseillers, du coup, pour qu'ils soient bien au courant des démarches qu'on mène.
Oui, juste, il s'agissait d'une assemblée, donc du conseil départemental, d'une assemblée plénière. Et donc, on espère aussi pousser à ce que cette modification du règlement du Gard, elle soit mise en discussion au sein de l'assemblée du conseil départemental, ce qui n'a pas été le cas, mais on espère que ce sera le cas prochainement. Et donc, on a fait un rassemblement devant l'hôtel du département pour interpeller ces conseillers départementaux.
Là, Ravière, tu as évoqué un petit peu toutes les actions qu'on a fait ces derniers mois. L'idée, donc, c'était d'une part de faire en sorte que les ressortissants européens qui sont dans cette situation, voir leur situation un petit peu débloquée, et d'une manière générale, obtenir la modification de ce règlement qui est hyper restrictif dans le Gard. Donc, sur ce dernier point, pour l'instant, il n'y a pas d'évolution. Sur le déblocage de certains dossiers, pour Ravière, c'est toujours bloqué et quelque part, ça fait un peu plus de 2 ans que ça dure et ils ont l'air d'avoir du mal à revenir là-dessus, mais on va pas les lâcher jusqu'à ce qu'à un moment donné ils acceptent de lâcher cette histoire. Mais ce qu'on a vu à côté de ça, c'est qu'en fait, avec toute cette dynamique de lutte en fait depuis plusieurs mois, on a aussi rencontré de nouvelles personnes qui étaient dans ces situations. On a appuyé les demandes de RSA de ces personnes auprès du département. Et on a vu que, en fait, ces nouvelles demandes par ces personnes qu'on avait rencontrées, qui étaient des nouvelles demandes qui étaient à étudier par le département, elles ont été étudiées quand même relativement plus rapidement et de manière favorable. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, la dynamique de lutte, elle peut à minima permettre ça. Et tout ça, on a aussi réussi à avoir quelques infos, à soustraire quelques infos un petit peu de tout ce schmilblick. Notamment en fait au moment de l'occupation à Nîmes du conseil du service des interventions sociales, on a rencontré donc les deux responsables en fait des services, donc c'est monsieur Hérault et monsieur Nicolas, qui nous ont quelque part reconnu que ce règlement en fait c'était quelque chose qui était assez arbitraire, dans le sens où en fait ils ont fixé en fait un revenu minimum pour obtenir le RSA à l'équivalent du RSA. Eux, ils reconnaissaient eux-mêmes que, de par la loi, ils pourraient très bien soit ne pas fixer de montant, soit le fixer à 1 euro, et ce serait de leur mot à eux, toujours, ça resterait illégal. De notre avis à nous, ça reste illégal parce qu'il n'y a pas besoin de fixer de montant, la loi ne n'indique pas ça. Mais en tout cas, voilà, ils reconnaissaient que c'était quelque part quelque chose d'arbitraire, que eux avaient décidé de fixer ce montant-là, qui pourrait très bien fixer un montant complètement différent. Autre chose qu'on a appris, c'était qu'en fait ce règlement qui est en cours aujourd'hui, en fait, sur la question des ressortissants européens, il est pas vieux, ça date d'il y a 2 ans. C'était à une séance d'octobre 2015 qu'ils ont donc démo de monsieur Hérault, le conseil départemental a voté une stricte application de la loi en matière d'allocation pour les ressortissants européens, donc voilà, au moment de cette séance d'octobre 2015. Et quelque part, s'ils l'ont voté dans un sens il y a 2 ans, nous on pense qu'ils vont pouvoir le voter dans un autre sens à un autre moment, et on espère bientôt. Et un autre point en fait un peu plus général, c'est par rapport à cette situation de tous ces ressortissants européens qui ont leur dit que avec l'espace Schengen on n'a pas besoin de titre de séjour pour circuler, mais que quand on au niveau de chaque administration on doit prouver la régularité de son séjour en France, et quand ces personnes vont se présenter à la préfecture du Gard, comme dans toutes les préfectures c'est pareil partout en France, ce qu'on leur répond c'est qu'en fait ils sont pas prioritaires, qu'ils sont débordés et que du coup on ne peut pas leur donner de rendez-vous pour leur donner un titre de séjour, et conclusion, on ne va pas leur donner de titre de séjour. C'est le serpent qui se mord la queue, parce que du coup, ces personnes ne peuvent pas prouver, avec un titre de séjour, la validité de leur séjour en France serait incontestable auprès de toutes les administrations, mais la préfecture ne veut pas, même pas recevoir les demandes. Puis après, peut-être pour finir aussi, par rapport un petit peu à tout ce qu'on a tiré de toutes ces luttes, c'est qu'on a aussi fait des rencontres. Et notamment, en fait, début janvier, il y a une lettre ouverte qui a été faite par des agents en fait du conseil départemental syndiqué à Sud, qui venaient, qui à leur niveau, c'est essentiellement des travailleurs sociaux du département, qui venaient critiquer en fait la politique du département en matière d'attribution d'aide sociale et qui se retrouvaient eux en fait dans des situations extrêmement difficiles avec parce que au quotidien ces agents c'est eux qui reçoivent tous les travailleurs, tous les chômeurs, toutes les personnes qui viennent les voir pour essayer d'obtenir des aides sociales. Les robinets sont fermés à tous les niveaux et notamment jusqu'à en fait des situations en fait qu'ils racontent dans leur lettre ouverte, c'est jusqu'à des personnes qui demandent des aides d'urgence pour l'achat de couches, de lait maternisé pour leurs enfants et le département, donc ces aides qui sont accordées et derrière le département va jusqu'à leur demander des preuves d'achat de lait maternisé et de couches pour justifier qu'ils ont bien acheté ça avec le peu de les quelques cacahuètes qui ont été octroyées par le département ils sont pas allés boire des coups ou faire la fête avec cet argent là quoi. Donc ces agents de Sud qui ont fait une lettre ouverte donc début janvier pour dénoncer un petit peu tout ça et qui rejoignaient ce que nous on dénonce à notre niveau. Et aussi, on a aussi rencontré des agents qui sont donc là syndiqués à la CGT et qui eux dénoncent à leur niveau à eux des pressions par le département sur les agents, des pressions sur les syndicats. Voilà, en fait, tout ça nous fait dire que quelque part, on a tout intérêt à se rassembler et à essayer de mettre la pression de manière commune à inverser la pression et la mettre nous la renverser vers le conseil départemental. Pour tout ce qui fait subir aux allocataires ou aux habitants du Gard et à leurs salariés, les agents du département. On va peut-être faire une autre pause musicale. Donc là, on va écouter Petit Louis, donc avec un morceau qui s'appelle « Perdre sa vie à la gagner ». Alors, on est toujours dans l'émission Sur la route des ondes avec le collectif Exploité Énervé. Et donc voilà, donc on parlait de la situation des ressortissants européens dans le Gard et des batailles qu'on mène par rapport à tout ça, avec le collectif. À part toutes ces batailles qu'on a menées donc ces derniers mois, on a on a expliqué un petit peu les infos qui ont été ressorties, mais il y a aussi face à ça, on s'est retrouvé face à des détracteurs qui nous opposaient des arguments de toutes sortes. Donc là, en tout début d'émission, on a écouté le JT de France 3 Régions, et en même temps le même jour, il y avait eu un article du Midi Libre qui relatait l'occupation des services du conseil départemental à Nîmes en février. Et comme assez souvent, des articles du Midi Libre, les commentaires sur les articles du Midi Libre sont souvent assez gratinés. Donc là, il y en a eu pas mal, une cinquantaine. Et on nous a fait une petite sélection. Alors on va écouter ces braves gens gardois qui font des commentaires.
La première, c'est « Les contribuables français ont assez de payer pour tout le monde. Voilà un département qu'il a enfin entendu. » Après, il y a un autre qui dit « Et moi, je ne supporte plus de travailler 4 mois par an pour payer tous ces gens à ne rien foutre. » Encore un autre « Et il faut généraliser cela à toute la France, un ras-le-bol des parasites. » Et la cerise sur le gâteau « Si les ressortissants en question ne sont pas contents ou pas d'accord, alors qu'ils retournent chez eux et ils laissent la place aux Français. » Il n'y a pas que du bon dans l'Europe, et il est fort intéressant que certains dans les gares les rappellent à nos esprits un peu endormis. Merci aux membres du conseil départemental du Gard, et vive la France. Voilà, il y a des supporters contents avec les départements.
Alors on voit que finalement ceux qui soutiennent massivement les décisions du conseil départemental et le caractère extrêmement limitatif du règlement du RSA, ce sont plutôt des personnes légèrement racistes, nationalistes et avec tout le discours anti-assistanat qui vient derrière. Bon, en fait, ce discours, il fait le jeu de diviser finalement les travailleurs, les chômeurs, quel que soit le pays entre eux. Je pense qu'on est plus proche d'un travailleur ou d'un chômeur espagnol, albanais ou malien que de Bettencourt, la patronne de L'Oréal ou autre, quoi. Donc on a plutôt intérêt à être solidaires entre personnes qui travaillent, qui sommes au chômage ou autre, quel que soit notre pays, plutôt que avec nos patrons, nos dirigeants.
Il faut pas le prendre en main, là, les auditeurs. C'est pas juste l'envie de, voilà, c'est bien, hein, de rigoler de temps en temps. Mais c'est surtout, je pense, prendre ça un peu par exemple, parce que peut-être c'est un peu, extrême, mais quand même, ça rejoint des idées qu'on entend souvent et pas forcément de la part des gens extrémistes. Du coup, je pense que c'est bien d'amener les dialogues sur ça et éclairer.
Malheureusement,
c'est parler de ce genre d'idées reçues, quoi.
C'est pas si exceptionnel que ça, ce type de discours, quoi, aujourd'hui.
Alors si on revient au fond du discours, c'est d'expliquer donc que le RSA ce serait de l'assistanat, etc. Bon, en fait, en réalité, ces aides sociales, elles font partie du salaire indirect des travailleurs, des chômeurs, enfin de la classe des exploités en général. Ce salaire indirect, il comprend un certain nombre de choses, hein. Ce sont les retraites, le chômage, la sécu, les aides sociales, etc. Et au fond, quelle que soit notre situation actuelle, on passe tous par ces différentes cases. À un moment donné, on travaille tous, on a un salaire. À un autre moment, on se retrouve au chômage. À un moment, on se retrouve à toucher la retraite, à avoir des aides pour la maladie.
La sécurité sociale.
La sécurité sociale. On se retrouve à avoir des aides parce qu'on se retrouve en maison de retraite ou autre. Et ça, c'est une part de notre salaire qui est indirect, qui nous est redistribuée. Du coup, chercher à pointer du doigt les personnes au RSA ou encore plus les ressortissants européens qui voudraient toucher le RSA, c'est se faire des illusions. C'est nous tous, par notre travail collectif, qui participons à ça.
Tout que c'est un peu c'est juste confortable, trop facile de jeter la faute sur l'autre. Mais parfois, c'est pas par méchanceté. Je pense que c'est aussi un mécanisme pour essayer d'échapper à regarder sa propre galère. Parce que comme tu dis, c'est juste, ça nous concerne tous. On passe notre temps à passer des CDD à CDI, au chômage, au RSA. Sauf que là, juste, on rajoute une petite couche de précarité. Comme on n'a pas droit au RSA comme on devrait avoir légalement, bah, les moments où on se trouve en grosse galère, on n'a pas droit à ce minimum social. Du coup, les autres ressortissants européens que j'ai rencontrés, bah, ils se trouvent alternés entre boulot précaire et cumuler suffisamment des boulots précaires pour pouvoir avoir pour l'emploi, mais ils n'ont jamais accès à ce dispositif qu'il est là. Je veux dire, normalement, ça fait du sens, quoi. Le minimum social, c'est pas pour... C'est justement pour faire face à ces moments de vraiment des difficultés qu'on peut avoir, qu'on a tous. Je veux dire, on choisit pas ces galères, quoi. On a tous les droits de tomber dans une galère, peu importe où on vient, quoi.
Et surtout, ce sont finalement des attaques générales qui se font à la fois contre les travailleurs et contre les personnes au RSA et autres. On cherche à baisser le coût du travail d'un côté, à rendre les conditions de travail de plus en plus dures, à augmenter les cadences pour les personnes qui travaillent. Mais on nous baisse aussi notre salaire indirect. Ce sont toutes les difficultés qui vont venir sur les retraites. Ce sont les suppressions des retraites particulières pour les cheminots ou autres. Et tout ça participe d'attaques pour baisser à la fois notre salaire direct et indirect. Et collectivement, en tant que classe sociale, on le subit tous, que ce soit par un des aspects ou un autre. Donc on a plutôt intérêt à tous lutter ensemble pour qu'on nous baisse pas les aides sociales et autres, qu'on nous baisse pas nos salaires, qu'on nous rende pas les conditions de travail plus difficiles, plutôt que de s'opposer entre soi-disant Français de souche et personnes d'autres pays ou autres.
Ou entre celui qui regardait son voisin en disant, ah, lui, il touche, soi-disant, il touche plus que moi, mais moi, je touche moins, je sais pas quoi. Mais en fait, bon, si on a regardé plutôt que pourquoi les uns et les autres on touche toujours moins, et qu'on regardait plutôt au niveau des décideurs et du patronat, moi, je pense qu'on aurait un petit peu plus de perspectives qui s'en trouveraient, quoi. Donc là, on a parlé d'une part de nos détracteurs, donc les commentateurs sur le site du Midi Libre. Ben, il y a d'autres détracteurs, ben, c'est directement au niveau du département, les conseillers et les responsables des services du département. Peut-être qu'on peut entendre ce qu'ils ont à nous dire.
Ah bah, nous, on peut rien faire, mais c'est l'État qui restreint les budgets. Nous, on suit. Et en plus, même les gares, hein, c'est un des départements qui dépense le plus en solidarité.
Alors, nous, face à ça, qu'est-ce qu'on a à répondre quand on nous dit que oui, le budget du Gard, c'est un budget qui est circonscrit et qui est de plus en plus réduit par l'État. Premièrement, ce qu'on a envie de répondre, c'est que le conseil départemental du Gard, c'est pas quelque chose qui est vraiment extérieur à l'État. C'est une branche de l'État, c'est une décentralisation de l'État, mais c'est aussi l'État. Et quand on nous parle de coupes budgétaires, que oui, il y a des réductions de budget pour le département, oui, c'est bien ça le problème. Et les coupes budgétaires, c'est à tous les niveaux. Donc oui, c'est pour les départements, mais c'est aussi pour tous les services de l'État. Et qui sont les services pour nous, tous les travailleurs, les plus pauvres, tous les habitants de ce pays, c'est les hôpitaux, des coupes budgétaires dans les hôpitaux, les EHPAD, pour l'entretien des routes, l'éducation, les retraites, la baisse des APL, toutes les réformes successives qu'on se prend dans la gueule et qui sont en fait des économies sur la redistribution sociale. Effectivement, c'est bien ça le problème. Et la question des ressortissants européens, c'est un tout petit bout de ce gros morceau. Mais c'est un bout de ce gros ensemble qu'on a envie de contester et qu'on a envie de combattre. Quand on nous dit donc les budgets sont réduits, c'est la crise, il faut faire des économies, nous on a envie d'opposer quelques petits chiffres. Il faut pas oublier que en 2012, donc le gouvernement, il a octroyé sur 5 ans, ça s'appelait le pacte de responsabilité, il a octroyé en fait une enveloppe de 41 milliards pour le patronat. Pareil, dans le même temps, c'était le CICE, donc le crédit d'impôt sur la compétitivité, donc qui était accordé pour les entreprises françaises. Tout ça représentait également sur 5 ans, entre 2012 et 2015, une somme de 45 milliards. Donc voilà, donc on continue. Là, Monsieur Macron est arrivé au pouvoir, donc il a mis en place, il a revu le calcul de la CSG. Le calcul de la CSG, donc par an, donc pour la première année d'application, en 2018, ce sera 20 milliards d'euros d'économies pour le patronat. Pareil, toujours de cette année-là, donc mise en place d'une sorte d'exonération de l'ISF, donc c'est les grandes fortunes françaises, ceux qui touchent le plus de thunes. Avant, c'était calculé sur autant l'argent qu'ils ont sur leur compte que toutes leurs actions et aussi tous les immeubles, tout le parc immobilier qu'ils ont. Et aujourd'hui, en fait, cet impôt sera calculé uniquement sur les quelques petits châteaux qu'ils possèdent. Et tout ça, au niveau français, par an, ça va faire une économie pour les plus fortunés de France de 4,5 milliards d'euros. Alors voilà, ben quand on nous dit ben on fait des économies, vous savez le RSA pour les ressortissants européens, on peut pas les payer, ça coûte très cher, bla bla bla. Et puis juste en fait au niveau du département, en fait on a regardé monsieur Boide, le conseiller départemental du Gard, ben son allocation pour par mensuel, c'est 5 500 €. Donc c'est-à-dire c'est 10 fois l'équivalent du RSA. Donc on propose à monsieur Boide d'essayer de se mettre au RSA pendant un mois et de voir un petit peu ce que ça fait. Après je pense qu'on pourra essayer de revoir ce qu'on peut faire par rapport au RSA.
Pas mal qu'il parle un peu en connaissance des causes, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on interpelle ce genre de personnages, on essaye d'expliquer la pénibilité de la situation. On demande, vous savez ce que c'est? Et on nous répond, oui, ben non. En fait, ils ont vraiment aucune idée. Je pense qu'ils sont assez déconnectés de toutes ces histoires. Et juste, j'avais envie de dire que c'est marrant, en fait. Ben, j'essayais de théâtraliser un peu, mais peut-être pas trop réussi, hein, l'argument du département. Mais justement parce que je trouve qu'il y a un côté, bah, on va être gentil, on va dire que c'est juste absurde. Que d'un côté, on dit les contextes, il y a un contexte, voilà, des coupures économiques. Du coup, oui, effectivement, nous, on essaye de racler, mais c'est pas notre faute. Mais d'autre côté, on va essayer de se mettre en avant et dire, regardez à quel point on dépense en solidarité. Je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est un peu, je sais pas, ça sera pas le conseil départemental du Gard, c'est le conseil départemental du Schrödinger, quoi, tu vois, on peut pas être un truc et le contraire à la fois, quoi, c'est un peu...
Oui, une des choses qu'on nous a dit au conseil départemental aussi, c'est que le budget pour le RSA est en augmentation très importante. Alors, il faut bien se rendre compte que s'il y a une augmentation au niveau du budget pour le RSA, c'est pas dû à la générosité du conseil départemental qui veut donner plus d'aide sociale. C'est dû à l'augmentation de la misère dans le Gard et du fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à devoir vivre avec ce minimum. Mais ensuite, il y a aussi d'autres
idées reçues, oui, notamment qui concernent la fraude. Non, c'est, il a souvent cette idée de si quelqu'un est au chômage ou quelqu'un touche le minimum social, c'est forcément parce qu'il fraude, quoi. C'est un peu comme s'il piquait un argent qu'il appartenait pas.
Tous ces parasites qui, plutôt que d'aller travailler, piquent les allocations et vont faire des petits, vont trafiquer leurs papiers pour gagner quelques sous, sur nos sous à nous.
Oui, un peu.
Oui, c'est un discours très répandu. C'est d'ailleurs y compris le discours qui est repris par l'État dans sa soi-disant lutte contre la fraude, etc. En réalité, d'abord, il faut se rendre compte que frauder pour toucher 400 €, c'est quand même, c'est de survivre et c'est à peu près tout. C'est pas non plus des centaines de millions que les individus arrivent à frauder. Et ensuite, si on reprend les chiffres quand même, la fraude aux allocations, toute allocation comprise, ce serait à peu près 500 millions d'euros pour l'ensemble du territoire. Hein. Si on le compare avec un chiffre assez simple aussi, si on prend l'évasion fiscale, ça représente entre 60 et 80 milliards, pas millions, milliards d'euros. Donc c'est plus de 100 fois plus. Alors à un moment donné, il faut se rendre compte où sont les réels problèmes. Hein. Le problème de la fraude, c'est un faux problème. On cherche plutôt à utiliser cet argument-là pour traquer toujours plus les chômeurs, les RSAs, faire des contrôles et couper les allocations pour faire des économies sur le dos des chômeurs, etc.
Et pour comparaison, cette histoire d'évasion fiscale, les 60 à 80 milliards, le déficit de l'État en 2017, c'était 69 milliards d'euros. Enfin, c'était pour donner un ordre d'idée de ce que c'est l'évasion fiscale et la fraude, qui n'est pas la fraude des petits allocataires du Gard pour le RSA. Et aussi, peut-être qu'on avait aussi envie de parler d'une manière générale, en fait, en France et aussi dans le monde, du fait qu'il y a de ce fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres, et d'une situation où en fait on a des personnes qui vont être toujours de plus en plus riches et de plus en plus riches de manière démesurée, qu'on n'arrive même pas à estimer à réaliser ce que ça peut représenter, tout ce qu'ils amassent, et de plus en plus de gens qui passent sous les seuils de pauvreté, qui ont de moins en moins de revenus pour se vivre chaque jour. Et donc voilà, donc quelques petits chiffres. Donc en 2017, toutes les entreprises qui sont représentées au CAC 40 en France, eh ben en fait, elles étaient hyper contentes, ils ont sauté de joie parce que ils avaient battu des records, ils étaient passés à 21% de croissance à ce niveau-là et avec un bénéfice total sur l'année de 94 milliards d'euros. Donc ça c'est les entreprises du CAC 40. Avec au passage, ça illustre un petit peu la situation, les entreprises qui ont fait le plus de bénéfices, la plus forte croissance cette année, c'était LVMH et je sais plus quelle autre boîte de produits de luxe, qui voilà, c'est les produits de luxe qui ont fait le plus de croissance cette année. Ce qu'on voit aussi en 2017, c'est que, bah en fait, il y a 39 milliardaires en France qui ont vu bah leur fortune qui ont évolué, qui ont grandi de 21% également, et que les 10 plus grandes familles françaises, elles ont vu leur fortune grandir de 950% sur l'année 2017. Qu'en France, il y a 22% des richesses produites en France qui va pour ces privilégiés-là, ces quelques milliardaires, et qu'en 20 ans, en France aussi, il y a eu plus de 1,2 million de pauvres, de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, ça c'était pour la France. Et au niveau mondial, en tout début d'année, en janvier, il y a des chiffres qui sont tombés, c'est que il y aurait 82% de la richesse produite sur l'année 2017 qui serait allée dans les poches, ce qu'on appelle les 1% les plus riches du monde. Donc ça c'est une formule pour dire qu'en fait c'est 42 multimilliardaires dans le monde qui sont accaparés les 82% de la richesse produite dans le monde en 2017. Donc ces mêmes personnes, en fait, sur l'année, elles ont eu autant que 3,7 milliards de personnes dans le monde, c'est-à-dire 50% de la population. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de ce que c'est, en fait, c'est qui les voleurs, c'est qui les gens qui nous piquent la thune, et c'est qui vivent sur le dos des autres, c'est qui les parasites. Nous, on a envie de dire que c'est pas les petits allocataires qui touchent le RSA.
Oui, j'avais juste envie de finir avec ça, de dire ce qu'est qu'on entend, tous ces chiffres, ça semble un peu extraordinaire, presque incroyable, quoi. Et on se demande, si c'est vrai, ça serait, et ça serait pas possible. Oui, justement, c'est possible parce que il y a ce jeu de mettre la faute sur l'autre, quoi. Je veux dire, tous ces gros fraudes, des vrais fraudeurs, c'est possible justement parce qu'on pointe des doigts les précaires, et on dit la dépense sociale, les fraudeurs, c'est ça le problème. Ça serait pas possible si, en plus de ces jeux malsains, de détourner et de frauder, ils jetaient en plus, c'est vraiment pervers, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, les bourreaux, ils font des victimes. Après, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire, c'est un peu.
Et puis il faut se rendre compte aussi que toutes ces sommes énormes qu'on cite, et elles viennent pas de nulle part, elles sont pas créées par magie, elles sont créées avant tout par le travail de milliards de personnes sur Terre qui passent leur vie à travailler dans des conditions très difficiles et qui par leur travail produisent l'ensemble de cette richesse. Ça vient pas de nulle part, de quelque chose de magique. En tous les cas, ce qu'on souhaitait dire par rapport à toute cette situation et par rapport à ce combat pour les ressortissants européens, pour qu'ils puissent avoir leur RSA dans le Gard, c'est que ce combat particulier, qui peut paraître spécifique, il fait partie en fait de la lutte de classe. D'une lutte de classe qui nous concerne tous, parce que c'est défendre le salaire indirect. Tout ce combat, il faut le poursuivre. Il faut qu'on reprenne l'offensive, qu'on soit ressortissant européen. Il faut qu'on lutte contre les radiations et les contrôles qui permettent de radier les chômeurs ou les RSA. Il faut plus largement qu'on mène des luttes, on l'a vu, contre la réforme de l'assurance chômage, mais aussi contre la réforme de la SNCF, comme le combat que mènent les cheminots en ce moment. Il faudrait reprendre le combat contre les lois travail, comme les combats qu'on a menés ces deux dernières années. Et puis actuellement, il y a aussi d'autres luttes qui font partie aussi de cette lutte des classes. C'est le combat que mènent les étudiants et des lycéens contre la sélection à l'université, qui fait que augmenter encore la sélection sociale. Et ensuite, il y a aussi des combats qui sont à mener, par exemple contre la loi asile et immigration qui est en train de passer à l'Assemblée. Bref, ce qu'on souhaitait dire, c'est ça, c'est que les travailleurs, qu'on soit travailleurs, chômeurs, fonctionnaires ou pas, de quelques pays qu'on soit, avec ou sans papier, on a tout intérêt à s'unir dans ces luttes contre le capitalisme et contre l'État à son service.
Et que cette histoire de ressortissants européens, c'est peut-être un tout petit bout de la lorgnette, mais voilà, ça fait partie de tout ça, de cette lutte de classe d'une manière générale.
Oui, tout à fait. En fait, je pense que il faut commencer quelque part. Du coup, voilà. Dans mon cas personnel, il y avait cette histoire derrière ça, mais c'est clair que c'est important de prendre conscience qu'on fait partie de toutes ces petites catégories. C'est pas vrai, quoi. C'est imposé d'en haut. On essaye de nous ranger dans des petites cases. Toi, tu es chômeur, toi, tu es étranger, toi, tu es. En fait, on est tous partis un peu de la même classe des galériens, quoi. Et du coup, comme je disais, c'est important de continuer, pas seulement pour faire valoir ses droits, parce que des fois on dit on peut avoir la tentation de se sentir un peu impuissante face à tout ça. Je pense que déjà l'effet de faire parler de tout ça, est-ce qu'on a essayé de faire un peu aussi aujourd'hui, non, un peu. J'étais un petit peu de lumière sur ces idées reçues, à faire parler, quoi, c'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Du coup, dans ce sens-là, il y a une invitation, il va avoir le 7 juin à 8h30 du matin, on appelle un rassemblement devant l'hôtel du département, qui est au numéro 3 de la rue Guillemet, c'est juste en face de la préfecture. Il y a une assemblée de conseillers, ils vont se réunir, les élus, pour un vote intermédiaire du budget. Du coup, c'est une jolie occasion d'aller les visiter et les montrer qu'on est là et peut-être avoir l'opportunité de les dire ce qu'on pense. Et ça c'est pour une action un peu concrète et peut-être un peu plus largement, encore une fois, là dans les cas qui me concernent, moi, petit à petit, plus on galère, plus on acquiert l'expérience. Et pareil dans les collectifs, il y a des gens qui sont tout à fait prêts à jeter un coup de main. Du coup, si vous vous trouvez dans une situation similaire, n'hésitez pas à venir nous voir, quoi. Je pense que c'est déjà assez dur d'être dans ces situations-là. Il faut surtout pas rester isolé et dire, il n'y a rien à faire. Du coup, voilà.
Donc, le collectif Exploité Énervé, donc, il y a plusieurs rendez-vous à plusieurs endroits différents. Donc, une fois par mois, donc, il y a la réunion du collectif. Ça se passe à Alès, à la Rétive, au 42 rue du Faubourg d'Auvergne. Et c'est tous les deuxièmes vendredis du mois à partir de 19h. Après, il y a des permanences. Donc là, c'est pour donc les réunions. Donc c'est vraiment pour discuter d'une manière générale un peu de tout ce qu'on essaie de faire à travers le collectif. Et les permanences, c'est pour rencontrer des gens qui veulent venir, qui ont des galères et qui veulent venir partager ces galères et voir un peu comment on peut s'organiser ensemble. Donc ça, il y a plusieurs permanences. Il y en a donc sur Alès, donc toujours à la Rétive, les premiers et troisièmes samedis du mois de 16h à 18h. Ensuite, il y en a aussi à Saint-Ambroise, donc c'est les deuxième et quatrième mardis du mois de 10h à midi. Et là, ça se passe au CCP, c'est le Centre Cévenol de Culture Populaire, et c'est au 1 rue de la Fraternité à Saint-Ambroise, donc les deuxième et quatrième mardis du mois de 10h à midi. Et aussi, depuis tout récemment, à Bessèges, donc là, c'est tous les mercredis de 15h à 17h, et ça se passe à l'Assos Bessèges, au 72 rue de la République à Bessèges. Et donc voilà, donc tous ces rendez-vous, donc ça c'est autant de façons de venir rencontrer le collectif, en vrai, en chair et en os. Et après, il y a aussi différents contacts. Donc il y a le contact mail, exploité au pluriel, tout attaché, énervé également au pluriel, @riseup.net. Donc ensuite, il y a un numéro de téléphone, c'est le 07 53 78 67 95. Et puis un site internet où il y a toutes les infos du collectif. Donc c'est exploité au pluriel, énervé au pluriel aussi, tout attaché, .org. Donc voilà, Ravière nous a rappelé le rassemblement à Nîmes le 7 juin devant le conseil départemental sur la situation des ressortissants européens. Et on avait juste pour finir envie de passer une autre info, c'est que le samedi 9 juin, donc deux jours après, sur Alès, il y aura une manifestation en fait pour protester contre la loi asile et immigration. Et donc là, ça sera à 17h. Au départ du cratère, sur la place du cratère à Alès, donc le samedi 9 juin à 17h, contre la loi asile et immigration. Et je crois qu'on va terminer là. À bientôt, dans la rue, dans les luttes. Et là, on va se quitter sur un morceau de NTM, Qu'est-ce qu'on attend ?
Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume donc, encore moins d'espace. Plus tard est nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme. C'est comme de nous dire que la France avance alors qu'elle pend. Par la répression, stoppée naît la délinquance. S'il vous plaît, un peu de bon sens, écho. Ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout t'aurais dû péter. Dommage que l'unité n'était de notre côté, mais vous savez que ça va finir mal. La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce
qu'on attend pour faire faire.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire.
Je ne fais que vivre baïonné.
En effet,
comme le fait la société.
C'est un fait, mais
il est temps que cela cesse. On passe face à l'allégresse pour que notre jeunesse et même un vengeur reste policier en premier, hey. On voit la République brûler au même bûcher. Notre tour est venu à nous de chanter les dés. Décidez donc, mentalement de s'équiper.
Quoi?
T'es miro, tu vois pas, tu fais semblant, tu m'entends pas. Je crois, plutôt que tu ne t'accordes pas vraiment le choix.
Beaucoup
sont déjà dans ce cas.
Voilà
pourquoi cela finira dans le désarroi.
Désarroi, déjà roi.
Le monde rural en élection.
Désarroi, déjà roi.
Tout subirait la même pente. L'agonie lente, c'est pourquoi j'en attends trop. Putain de politiques incompétentes. Ce qui a diminué la France. Donc l'heure n'est plus à l'indulgence, mais ça vous fait par le feu. Ce qui à mes yeux semble être le mieux. Faut qu'on nous prenne un peu plus en sérieux.
Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. Mais qu'est-ce, mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. Jamais eu ou à votre place, je ne dormirai pas
tranquille.
La bourgeoisie peut trembler, les guerres sont dans la ville. Pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Elysée. Et bien, faut bien qu'un jour il paye. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Sur nos repères, sur nos modèles de toute une jeunesse. Vous avez brûlé les ailes, brisé les rêves, tari la sève de l'espérance. Oh, quand j'ai pensé.
Il est bon qu'on y pense, il est temps que la France daigne prendre conscience de toutes ses offenses. Face de ses hontes, des leçons à bon compte. Mais quand bien même la coupe est pleine, l'histoire l'enseigne, nos chansons vaines.
Alors,
plutôt que cela traîne, ne traîne même encore plus de haine. Une étion ne pourra s'élever ce système.
Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. C'est pas mes caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. C'est pas mes caisses. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. C'est pas mes caisses. On a fait qu'on ne plus pour le vrai. Mais qu'est-ce qu'on a comme bon fond. C'est pas mes caisses.
Make it, 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 make it,